Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Point d'orgue. Bienvenue sur votre rendez-vous de musique liturgique. Je suis très heureux, très heureux de vous retrouver pour parler encore avec vous de musique liturgique et en particulier dans ce ton particulièrement fécond qu'est l'Avent pour préparer Noël. Alors la semaine dernière, nous avons écouté divers chants de la même famille, on va dire, puisqu'il s'agissait du O Magnum Mysterium. On avait entendu plusieurs, de plusieurs siècles différents, et vous avez pu vous rendre compte de la richesse de ce répertoire-là qui faisait de la nuit de Noël un moment si particulier et également en musique. Bien entendu, vous vous rendez bien compte que si on devait parler uniquement des chants de Noël, il y en aurait pour des heures et des heures et des heures, tellement le répertoire est immense. Alors c'est sûr qu'on prend un peu d'avance en évoquant parfois le jour de Noël même, donc pardon pour prendre un petit peu les devants. Il y a également des chants de l'Avent, et je vais vous en faire découvrir un, notamment aujourd'hui, qui est tout à fait particulier. Il s'agit du Veni, Veni, Emmanuel. Alors Veni, Veni, Emmanuel, c'est connu depuis des siècles, c'est un répertoire traditionnel en Europe, puisqu'il s'agit d'un chant grégorien qui est issu des grandes paraphrases. On appelait ça la semaine des O, d'ailleurs, parce que tous les hymnes commençaient par O, et en fait c'était cette imprécation qui était donnée à Dieu de nous donner un sauveur. Et naturellement, quand on voit le texte, Veni, Veni, Emmanuel, c'est cette venue du Sauveur qui est tant désirée de ce nouveau roi qui viendra nous sauver. Donc c'est tout à fait ce qui est demandé dans ce texte-là. Et alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que ici, c'est tout à fait particulier du grégorien. Mais je ne vais pas vous faire écouter cette version grégorienne, je vais vous faire écouter une sorte de paraphrase. Donc vous allez entendre le grégorien en filigrane, vous savez que j'aime beaucoup faire ça, les harmonisations du grégorien. Et ici, c'est une harmonisation anglaise. Alors de fait, les Anglais se sont beaucoup emparés du sujet du Veni, Veni, Emmanuel. Pourquoi ? Parce que la monodie ne leur allait pas. C'est pas parce que ce n'était pas à leur goût, quoique, hein, y a des goûts pour chacun, mais c'était tout simplement parce que dans le culte anglican, ils voulaient privilégier de le faire à plusieurs voix. C'est pour ça qu'à partir du 19e siècle, vous avez en Allemagne et notamment en Angleterre, beaucoup d'endroits où on a mis en musique ce fameux Veni, Veni, Emmanuel. Donc ici, c'est une version d'un compositeur qui s'appelle Philip Lawson, et Philip Lawson fait quelque chose ici d'assez particulier, c'est pour ça qu'il est intéressant d'entendre cette version-là, c'est-à-dire que là, vous avez un Veni, Veni, Emmanuel chanté par un chœur d'hommes. Alors, les chœurs d'hommes, on n'en a pas encore beaucoup parlé, et c'est bien dommage parce que c'est une des grandes richesses de la musique liturgique occidentale, puisque bien entendu, vous doutez bien qu'à une certaine époque, c'était les hommes prioritairement qui chantaient, avec les enfants qui imitaient les voix de femmes. Bien entendu, les femmes n'étaient pas forcément exclues du chant liturgique, vous doutez bien que les moniales devaient bien avoir quelques moments pour pouvoir chanter, mais principalement, effectivement, c'était des hommes. Et pourquoi les hommes, musicalement, ça peut être intéressant, et pourquoi aujourd'hui je vous fais écouter ça, c'est pas parce que c'est désuet, au contraire, il y a une belle modernité à redécouvrir ces choses-là, ces sonorités, et notamment dans la musique contemporaine. Quand vous entendez des voix d'hommes, c'est tout à fait particulier parce que vous entendez les sons graves. Et les sons graves sont très intéressants parce qu'ils font naître ce qu'on appelle des harmoniques. Quand vous faites un peu de physique, et on est obligé quand on fait de la musique, et en particulier du chant, eh bien vous savez que les ondes se répercutent d'une certaine manière. Et plus vous allez dans le grave, plus les ondes sont longues. Et donc quand elles s'entrechoquent, elles font naître plus d'ondes d'aigus. Et donc vous entendez parfois des notes qui n'ont jamais été chantées. On appelle ça les notes spectrales ou les harmoniques. C'est ce qui fait qu'on a un son si particulier quand on entend des hommes. Donc là, vous allez entendre ce Veni, Veni, Emmanuel, avec cette magie des sons graves, et en même temps, cette musique spectrale qui peut arriver, si on a l'oreille fine, qui est extraordinaire, parce que quand on annonce la venue du Sauveur, vous savez, il est né dans une mangeoire, ça se fait pas de manière fracassante. Donc en fait, tout est en subtilité. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre ça avec un chœur d'homme. Sauf qu'il y a également une petite astuce, vous allez entendre les hommes chanter avec leur voix de tête, donc une voix aiguë. Et là, ça donne un côté très universel, comme si finalement toutes les voix des anges se mêlaient à celles des hommes pour évoquer la naissance du Sauveur. Moi, je trouve ça absolument palpitant et captivant, et vous allez entendre d'une façon sonore, c'est un mélange absolument magnifique. Et la fin, Gaudé, Gaudé, alors qu'on annonce la joie de la naissance du Sauveur, est chantée de façon piano, comme si on se penchait sur le berceau du petit, et là aussi, je trouve que c'est particulièrement réussi.
Thank you.
Et c'est avec ces voix presque à l'unisson, en fait, on entend l'octave, donc ces notes aiguës qui sont ici très subtilement amenées, que nous entendons cette fin et cette demande de l'arrivée du Sauveur. Voilà donc pour ce Veni, Veni, Emmanuel, que j'espère que vous avez apprécié. Et alors là aussi, vous avez une littérature abondante à ce sujet, donc je vous invite à découvrir la tonne de musique qui existe sur ce Veni, Veni, Emmanuel. Maintenant, on va changer totalement de registre et on va même changer d'instrument. On va passer de la voix à l'orgue, parce que là aussi, vous vous rendez bien compte que pendant des siècles, et maintenant vous commencez à le savoir, l'orgue a tenu une place prépondérante dans la liturgie, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais je veux parler du siècle qui a fait de l'orgue ce qu'il a été vraiment par rapport au pouvoir. Et vous savez que je vous en ai beaucoup parlé quand j'ai évoqué les grands motets, les petits motets. Il y a eu une période, notamment sous Louis XIV, qui était extrêmement propice à l'orgue. Et le compositeur que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est Claude-Louis d'Aquin. Claude-Louis d'Aquin, c'était un immense compositeur et organiste, un virtuose hors pair. Il a été présenté très très jeune, il avait moins de 10 ans, à Louis XIV. Donc vous voyez qu'on avait déjà ressenti que le gosse avait quelques prédispositions. Et alors là, on s'est dit, celui-ci ira loin. Et de fait, il est allé très très loin. Il a été préféré à Rameau pour un poste d'organiste à l'église Saint-Paul, à Paris. Ensuite, il a succédé à son ancien maître, Louis Marchand, excusez du peu, à l'orgue des Cordeliers. Ensuite, il succède à Jean-François d'Andrieux, là aussi un immense musicien à la Chapelle Royale. Et enfin, il devient titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc vous voyez le grand parcours classique des organistes de cette époque. Claude-Louis d'Aquin a écrit un corpus de 12 Noëls, tous plus fantastiques les uns que les autres, qui sont absolument magiques à plus d'un titre. Ils sont magiques parce qu'ils mêlent grande musique et musique populaire. Comme savaient le faire les anciens, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi ils mêlaient le populaire? Tout simplement parce qu'ils prenaient des thèmes de Noël extrêmement populaires. Ça se faisait énormément de prendre ces Noëls populaires que tout le monde pouvait fredonner et d'en faire de la grande musique. Donc, Claude-Louis d'Aquin a écrit un corpus de 12 Noëls. Celui que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est le Noël numéro 6. Si ça vous plaît, je vais vous faire entendre différents Noëls. On ne les fera pas tous les 12, mais que vous puissiez entendre ces différents Noël que moi je trouve assez extraordinaire. Donc le Noël que je vous présente, c'est le Noël 6, qui se joue sur les jeux d'anche et en duo. Les jeux d'anche, vous savez, ce sont ces fameuses trompettes qui là aussi annoncent la venue du Sauveur et qui clament la joie, et également des duos, c'est-à-dire que vous allez avoir des sonorités qui vont se mêler, qui vont presque raconter une histoire, comme si c'était un récitatif avec un jeu soliste et un jeu qui l'accompagne. Et vous allez entendre, ça se fait de façon extrêmement subtile. La façon de faire de Claude-Louis d'Aquin est très simple. On va entendre le thème en permanence, mais qui va être à chaque fois un petit peu modifié. Et vous allez voir que ça va se faire sous forme d'une sorte de grand dialogue entre les jeux d'anches et ce duo. Et là aussi, chez d'Aquin, il y a le même procédé que l'on a entendu auparavant avec le Veni Emmanuel. Vous allez voir que les échos sont bien présents, comme si toute la campagne et les montagnes résonnaient de ces éclats de joie qui annoncent la venue du Sauveur. Voici donc le sixième Noël de Claude-Louis d'Aquin sur les jeux d'anche et en duo, interprété ici par Michel Bouvard.
Thank you.
continuerons ce pèlerinage avec les Noëls de Dakin la semaine prochaine. Mais pour l'heure, je voulais vous faire découvrir d'autres chants de Poulenc. Vous savez que la semaine dernière, nous avons écouté les Omanium Mysterium. Et donc, il faut savoir que ce Omanium Mysterium prend place dans une série de 4 motets pour le temps de Noël. Donc, je voulais vous faire découvrir les 3 autres. Le premier, c'est le Quem Vidisti Pastores Dicite. C'est-à-dire qu'on demande aux pastores, donc aux pâtres, ce qu'ils ont vu ce jour-là de Noël. Donc là, il y a cette espèce de mystère qui est là, et il va y avoir un moment fortissimo sur un mot bien particulier, dicite, c'est-à-dire dites-nous, comme si on voulait savoir quel était ce mystère qui va être dit. Vous allez l'entendre, c'est absolument incroyable. Le deuxième, videntes stellam, là aussi vous avez quelque chose dans la texture du chant qui est tout à fait particulière, avec les 3 voix les plus aiguës, c'est-à-dire soprano, alto et ténor, qui font quelque chose de très céleste, évoquant là aussi les étoiles que voient les mages, et donc il y a cette espèce de vision des mages qui vont suivre cette étoile jusqu'à l'enfant Jésus. Et le dernier motet, là on arrive à la fin, au jour de Noël même, Odie Christus Natus Est, aujourd'hui le Christ est né, et là vous allez voir, c'est beaucoup plus exubérant, les rythmes sont beaucoup plus allants, entraînants, et laissent montrer tout le génie de ce compositeur extraordinaire qu'est Poulenc. Donc voici les 3 derniers des 4 motets pour le temps de Noël de Francis Poulenc.
Thank you.
sont ces voix enthousiastes qui nous font comprendre que véritablement le Christ, le Sauveur, l'Emmanuel que nous attendions au début, Veni, Veni, Emmanuel, est bien arrivé. Et donc c'est tout ce cette joie qu'arrive à mettre en musique Poulenc, encore une fois, avec tout son talent. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour musical dans l'avant, que naturellement, nous allons continuer dans les jours et les semaines à venir. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt sur Point d'Orgue.